entrées congolais présentées par Anne Hirung.
Bonsoir. Commémoration la semaine passée du 12e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution consacre notamment une grande représentation des femmes à tous les niveaux de prise de décision dans les institutions et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux pour la prévention, la gestion et le règlement des différends. Selon la ministre du Genre, Famille et Enfants, il n'y a pas eu une grande avancée dans la mise en œuvre de cette résolution en RDC. Comment analyser cette situation? Pour en parler, nous recevons Madame Georgette Biebie-Songo-Milété, professeure à l'Université de Kinshasa et militante pour la promotion des droits des femmes. Professeure Biebie, bonsoir.
Bonsoir.
Ils vont nous rejoindre dans un tout petit moment. Madame Annie Kenda, directrice des services juridiques au ministère du Genre, Famille et Enfants. Elle est également secrétaire permanente du Conseil national de la femme, ainsi que Maître Guylain Malère, avocat et consultant de droit. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à dec@radiookapi.net.
La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies a totalisé 12 ans le 29 octobre dernier. À cette occasion, trois journées portes ouvertes avaient été organisées à Kinshasa par la division genre de la MONUSCO en collaboration avec le ministère de genre et de la famille. Reportage Nadine Foulansimba et Clarisse Moussouamba.
La résolution 1325 a été instituée depuis 2000. Elle est un instrument pour influencer les débats sur l'intégration de la dimension genre. Elle traite également de la question des femmes dans les situations de conflits armés. En RDC, cette journée offre une occasion aux différentes composantes de réfléchir sur les avancées de la résolution 1325. Pour Geneviève Inagosi, ministre de genre et de la famille, il n'y a pas eu une grande avancée dans la mise en œuvre de la résolution 1325.
Et le problème se pose encore avec beaucoup plus d'acuité. En situation de conflit, les femmes sont violées ou encore elles sont abusivement utilisées et exploitées. Mais du côté du gouvernement, il y a quand même certaines lois qui ont été prises dans le cadre de la résolution 1325.
D'où la tenue de ces trois jours portes ouvertes, un cadre de réflexion sur les mécanismes à mettre en place pour faire avancer l'application de la résolution 1325. Roger Miss, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RD Congo.
Pour le gouvernement ainsi que les partenaires, en voyant qu'est-ce que nous pouvons faire en plus pour achever tous les objectifs décrits par la résolution.
Une attention sera portée sur les activités réalisées ainsi que les modalités pratiques pour la redynamisation de la résolution 1325.
Merci Nadine Foula, Nsimba et Clarisse Moussouamba. C'était le reportage réalisé le 29 octobre dernier à l'occasion des 12 ans de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Madame Annie Kenda, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice des services juridiques au ministère du Genre, Famille et Enfants, également secrétaire permanente du Conseil national de la femme. 12 ans après, quel bilan vous dressez de l'application de la résolution 1325 qui consacre une grande représentation de la femme à tous les niveaux de prise de décision dans les institutions?
Merci de m'avoir accordé cette occasion. Je sais que le bilan est positif dans le sens que, comme venait de le dire Monsieur Nice et Madame la ministre du Genre, que des efforts sont en train de se déployer pour que la résolution 1325 puisse être réalisée à 100% dans les institutions du pays, ainsi que dans la société civile ainsi, avec l'appui des partenaires. Et nous pouvons dire que, comme vous le savez, la résolution 1325 a plusieurs domaines d'intervention. À travers ces domaines des interventions, nous avons 10 domaines prioritaires qui sont la paix, la sécurité, les violences sexuelles basées sur le genre, les vies à sida, les droits des femmes, la participation politique, la consolidation d'un état des droits, la coopération régionale et internationale, la recherche et études, ainsi que suivi et évaluation. À travers ces domaines, nous pouvons dire que le bilan, dans chacun des domaines, il y a des efforts qui ont été faits et qui ont permis à ce que la femme puisse s'impliquer, parce que la résolution elle-même parle de la femme, paix et sécurité, et il y a des efforts qui ont été faits et qui peuvent aujourd'hui faire que la femme en RDC a atteint un niveau où il faut renforcer actuellement ses capacités pour qu'elle aille plus loin.
Alors quand vous dites qu'il y a des efforts qui ont été faits, concrètement c'est dans quel domaine et concernant quelle matière précisément?
En ce qui concerne le domaine des droits des femmes, par exemple, vous savez que nous avons des lois qui ont été prises au niveau du pays pour qu'ils puissent s'adapter aux standards internationaux. Et nous avons la constitution d'abord de la République qui rassure les femmes, qui a posé des bases légales pour que les femmes puissent être pour travailler et participer à des postes de responsabilité au même titre que les hommes, et que les femmes ne puissent plus avoir de restrictions pour qu'ils puissent s'impliquer dans la reconstruction du pays et que les femmes puissent connaître leurs droits. Et c'est déjà un effort qui a montré la volonté politique des uns et des autres pour que... Vous savez, dans les temps, la femme ne pouvait pas voter, la femme ne pouvait pas aller plus loin avec ses études. Aujourd'hui, nous avons la représentation de la femme à tous les niveaux, mais les efforts doivent être faits à ce niveau-là pour qu'elles accèdent, au même titre que l'homme, à un nombre égalitaire, pour que nous puissions effectivement palper la visibilité des lois qui sont déjà prises par rapport à la loi fondamentale qui est la Constitution de la République. Dans le domaine de la participation politique, aujourd'hui, la femme n'a plus de restrictions pour pouvoir se présenter comme électrice, et la femme n'a plus de restrictions pour élire une autre femme ou pour se présenter aux élections. La femme participe à la chose publique au même titre que l'homme, mais les défis restent à ce qui concerne l'éducation et la sensibilisation qui doivent être faites d'une façon permanente, surtout au niveau de l'école primaire, de l'école secondaire, pour que et au niveau des familles aussi, pour qu'on puisse faciliter l'accès de la femme à l'éducation, à l'information, afin qu'elle ne puisse plus se sentir frustrée, désignée et résignée pour participer à la reconstruction du pays.
Alors, Madame Annie Kenda, vous dites que les lois, certaines lois ont été adaptées aux standards internationaux, mais d'après certains observateurs, toutes ces lois ne sont pas adaptées aux réalités congolaises. C'est ce qui compliquerait le problème de la participation de la femme.
Non, vous savez, quand vous parlez de la réalité congolaise, ce que je peux moi vous dire à ce niveau-là est que toute nation a ses lois, a ses mœurs, a ses coutumes, a ses cultures, mais c'est un processus, un problème de temps où il faut, parce que vous savez, la situation que nous avions à l'époque coloniale n'est pas la même que la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui par rapport à la promotion de la femme, parce que vous savez, à l'époque coloniale, la femme n'avait pas accès à l'école. La femme avait accès à l'école ménagère et la femme ne pouvait même pas voter, ne pouvait même pas participer aux élections au même titre que son collègue masculin. Et avec la ratification de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme et avec la Conférence internationale de Beijing sur les 12 domaines d'intervention, les efforts sont en train d'être faits pour sensibiliser les femmes. Et aujourd'hui, nous avons... Et sur les 12 domaines d'intervention de Beijing, nous avons les corporations qui existent, qui n'existaient pas à l'époque. À l'époque, si vous savez, à l'époque coloniale, les femmes avaient seulement eu l'occasion de se faire membre des partis politiques, mais dans ces partis politiques, ils n'avaient pas l'occasion de pouvoir participer à la direction du parti. Mais aujourd'hui, si vous faites les bilans, vous allez vous rendre compte que la femme est là.
Voilà. Madame Georgette Biébé Songo-Milété, vous êtes professeure à l'Université de Kinshasa et militante pour la promotion des droits de l'homme. Quel est le bilan que vous vous dressez des 12 ans de la résolution 1325?
Moi, je voudrais m'appuyer sur les déclarations de notre ministre du Genre qui me met vraiment à l'aise en tant que militante de la promotion des droits des femmes. Quand mon ministre dit qu'il n'y a pas d'avancée significative dans la promotion des droits des femmes, moi je suis tout à fait d'accord avec elle. Madame Annie Kenda, c'est un cadre du ministère, elle est de la fonction publique, donc elle voit des avancées, mais moi en tant que militante de la promotion des droits des femmes, en tout cas je partage l'opinion de mon ministre du genre, de la famille et de l'enfant. Il n'y a pas eu tellement d'avancées. Les lois sont là, mais si les lois ne sont pas appliquées, cela ne fait pas avancer la cause ou la promotion des droits des femmes. Nous avons un grave problème en RDC. C'est un problème du respect des lois qui sont prises. C'est un problème de non-respect de l'engagement pris et un problème de non-respect de la parole donnée, de la signature donnée. Donc pour moi, je considère que malgré l'existence de cet instrument juridique qui est très important, les avancées sont très faibles au niveau de la RDC. Elle a parlé de 12 domaines de Beijing. Si on regarde la configuration des institutions publiques aujourd'hui dans notre pays, moi je ne peux pas prétendre que la femme est suffisamment représentée à tous les niveaux de prise de décision. Et nous l'avons toujours dit, ce n'est pas un cadeau que nous demandons, ce n'est pas une faveur que nous cherchons, mais nous voulons l'application de la loi. C'est une question juridique, c'est une question de droit. Et moi, je pense que dans ce pays où nous cherchons tous à construire un état de droit, si les lois ne sont pas appliquées, si on ne respecte pas les lois qui sont prises, adoptées, promulguées, cela ne fait pas avancer les choses. Donc pour moi, en tant que militante, depuis plusieurs années, depuis plus d'une décennie de la promotion du droit des femmes, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées. Il n'y en a pas beaucoup.
Alors,
pourtant, on nous parle de la compétence, il n'y a pas de femmes compétentes. Mais franchement, moi je ne suis pas convaincue, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas de femmes compétentes. Des femmes compétentes, il y en a. Des femmes qui ont de l'expertise, il y en a. C'est vraiment dommage que quand il s'agit de désignation, on préfère favoriser les hommes au lieu de prendre également les femmes compétentes et les femmes qui ont de l'expertise.
Alors, professeur Georgette Biébié, y aurait-il un problème de volonté politique?
Je vous ai dit tout à l'heure que dans notre pays, on a un réel problème de non-respect des engagements pris. Pour moi, il n'y a pas tellement de volonté politique. S'il y avait une volonté politique comme ailleurs, il y aurait un élan qui suivrait, il y aurait suffisamment de femmes qui militent, il y a suffisamment de femmes qui ont de la compétence, qui ont de la maîtrise des matières, parce que quand on parle de la compétence, c'est quoi? Hein? Moi, je suis docteur en pharmacie, il y a un homme qui est docteur en pharmacie, je crois qu'on a appris les mêmes matières à l'école. On ne peut pas dire, la compétence c'est par rapport à l'exercice du pouvoir ou par rapport à l'exercice des responsabilités qu'on vous a confiées. Mais on n'a pas encore confié des responsabilités ou des tâches à une femme et on avance déjà, on dit déjà que les femmes compétentes, il n'y en a pas. À RDC, tous les domaines où il y a un petit métier qui paye bien, c'est devenu la chasse gardée des hommes. Ils ne veulent pas ouvrir et les politiques n'ont pas une grande volonté politique. C'est vrai, il y a des lois qui se prennent, il y a des mesures qui se prennent, mais quand on parle du combat des genres, on ne peut pas prendre que des mesures sans donner des moyens pour l'application de ces mesures. Sans donner le budget du ministère du genre, il est de combien? Madame Annie Kenda peut nous le dire. Il est de combien de ministères, ces ministères du genre, famille et enfants? Et le genre, ce n'est pas seulement le problème qui concerne les femmes, c'est le problème d'injustice sociale, c'est le problème d'inégalité, de discrimination, de disparité, c'est des problèmes d'exclusion. Et si aujourd'hui on regarde un peu le budget qui est accordé au ministère du genre, je ne peux pas dire qu'il y a une volonté politique pour trouver des solutions aux problèmes de certaines catégories sociales.
Alors, professeur, je vous propose de prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Maître Francis Do Joseph Bonzemba Lokombe, depuis Kinshasa, République démocratique du Congo. Résolution 1325 en RDC, mythe ou réalité? La femme congolaise est toujours, comme jadis, l'objet de multiples abus, entre autres le viol, la discrimination, l'harcèlement de tout genre, surtout dans le marché d'emploi où on l'administre, des traitements cruels, inhumains, dégradants. La cloche a déjà sonné. La femme congolaise doit se réveiller de son profond sommeil, car personne ne peut contribuer à son émergence sans sa prise de conscience effective.
La femme congolaise doit se réveiller, professeur Biébié. Cette femme congolaise, visiblement, dort encore, d'après notre auditeur. Brièvement, je vous en prie.
C'est son opinion, hein. Je respecte son opinion. Mais moi, je suis dans le combat de la promotion des femmes congolaises depuis 1996. Je peux avouer aujourd'hui que les femmes ont pris conscience de leur état. Les femmes voudraient participer à la gestion de la chose publique dans tous les domaines. Ce n'est pas en politique seulement, c'est dans tous les domaines. Malheureusement, elles continuent à souffrir de discrimination, elles continuent à souffrir d'exclusion, mais la conscience, elle est là. Vous avez vu pendant les élections qui viennent d'avoir lieu, il y a eu beaucoup de femmes qui se sont levées, mais avec quels moyens?
Merci.
Je vais parler encore de moyens. Les hommes qui sont allés aux élections, c'était des hommes qui sont au pouvoir.
Merci.
Les ministres n'ont pas démissionné. Ils sont allés aux élections avec les moyens de l'État, avec les véhicules de l'État. Combien de femmes sont au pouvoir pour se permettre aujourd'hui d'aller aux élections avec les moyens de l'État, avec les véhicules de l'État, les carburants de l'État?
Merci.
Donc on ne peut pas dire que les femmes dorment. Les
Merci.
Femmes ne dorment pas. Les femmes essayent de se créer un petit chemin dans ce monde qui est cruel.
Merci.
Et on ne nous laisse pas la place, mais nous continuons à nous battre.
Merci, professeur.
Pour essayer de nous faire un petit chemin.
Merci, professeur. Je vous retrouve dans le prochain tour des tables. Maître Guilhem Aléré, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors. Vous êtes avocat et consultant de droit. Quelle est votre analyse par rapport à l'application de la résolution 1325? Vous avez suivi Madame Annie Kenda ainsi que le professeur Georgette Biébié.
Oui, effectivement, mais moi, ma position va être plus ou moins centrale en disant que au niveau de notre pays, il y a eu certainement des avancées sur le plan du cadre législatif, si vous voulez, sur le plan normatif. Effectivement, le gouvernement de la République démocratique du Congo a démontré qu'il prenait certains engagements vis-à-vis de cette résolution qui, il faut le rappeler, avait été adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ceci s'est traduit à travers de nombreux textes qui ont été évoqués, notamment lors des dernières journées de réflexion sur la problématique de la mise en œuvre de cette résolution, qui ont été organisées par le ministère du genre, de la famille et de l'enfant. Je suis même étonné d'entendre dire que Son Excellence Madame la Ministre aurait dit qu'il n'y a pas d'avancée significative, alors qu'au cours de ces journées de réflexion, les participants ont quand même salué le fait que chez nous, il y a eu des textes importants comme la Constitution de la République démocratique du Congo qui a inscrit en son sein le principe de la parité hommes et femmes en termes de participation aux instances de prise de décision.
Mais ce serait toujours l'application qui poserait problème, comme a dit le professeur.
Il y a une stratégie nationale, n'est-ce pas, de lutte contre les violences sexuelles, par exemple, une stratégie les politiques nationales, genre, il y a un certain nombre d'instruments, n'est-ce pas, nationaux, qui existent. Le Conseil national de la femme, par exemple, c'est une réalité aujourd'hui, avec des conseils locaux des femmes, qui sont des structures nationales, qui sont chargées notamment de faire le monitoring de l'application des instruments juridiques internationaux dans notre pays. Bref, il y a quand même, sur le plan interne, des efforts qui sont faits. Parce que, en décourageant parfois les initiatives internes, on crée des effets contre-productifs. Il faut quand même reconnaître qu'il y a quelque chose qui est fait sur le plan normatif, sur le plan du cadre légal au niveau interne. Évidemment, le problème se pose, et c'est là que je rejoins l'auditeur de tout à l'heure, dans la pratique maintenant, sur l'effectivité de la promotion de la femme par rapport à un des aspects qui sont soutenus dans la résolution, c'est-à-dire sa participation aux instances de prise des décisions et par ce biais-là, sa participation à la gouvernance du pays. Bon, et là, le problème se pose, ce n'est pas seulement le gouvernement qui doit être responsable, hein, encore que c'est vrai, il a une grande part de responsabilité, mais il y a aussi un problème au niveau des femmes eux-mêmes. Pourquoi un problème au niveau des femmes? C'est parce qu'il y a une infime partie de la femme congolaise, en fait, qui s'occupe des problèmes de promotion de la femme. Le plus grand nombre de nos femmes, de nos sœurs, vivent notamment en milieu rural. C'est là que vous en trouvez. Et celles-ci sont très peu informées sur toutes ces questions qui concernent le genre. Et quand vous lisez la résolution, vous voyez qu'il y a là un paragraphe qui recommande que les États fassent un effort au niveau de la formation aux questions de genre, à tous les niveaux, pour que les femmes prennent conscience des problèmes qui sont les leurs et qu'elles aient ensuite envie de participer à ce combat qui est finalement les leurs. C'est pour ça que l'auditeur disait tout à l'heure qu'il y a comme une léthargie de la part des femmes. Alors les femmes que nous voyons ici, comme le professeur qui vient de parler tout à l'heure, c'est l'élite. C'est seulement l'élite qui est dans ce combat là-bas, mais quand vous rentrez au milieu rural, quand vous rentrez dans le Bandundu profond, dans le Kivu profond, eh bien ces femmes-là sont prises par d'autres préoccupations et n'ont même pas l'information sur les questions de genre. Et ce n'est pas étonnant de voir que lorsque 52% des femmes sont enregistrées par exemple comme électrices, eh bien on arrive à des scores tels que 8% des femmes seulement sont élues comme représentants des femmes dans les institutions législatives par exemple. C'est parce que les électrices femmes qui sont en grande partie dans ces milieux-là ruraux, n'ont pas l'information sur le combat qui est mené par rapport au genre. Donc, voilà un peu
Il faut nuancer les choses. Mmh. Alors, Maître Guilhem Aléré, le cadre normatif est placé, mais le professeur Biébié a souligné que la volonté politique devrait se manifester à travers le budget, malheureusement qui est insignifiant, et c'est là qu'il y a aussi un paradoxe.
Effectivement, là, c'est tout à fait vrai. Il faut que l'État non plus ne soit pas hypocrite lorsqu'il prend des textes de loi, lorsqu'il prétend adhérer totalement aux prescrits de la résolution. Il doit savoir par exemple que cette résolution recommande à son paragraphe, je crois c'est paragraphe 6 et 7, n'est-ce pas, que les questions de formation aux questions du genre et des droits des femmes ainsi qu'au VIH/SIDA soient soutenues financièrement par le gouvernement. Il faut que le gouvernement apporte des moyens conséquents pour que, par exemple, ces thématiques soient portées non seulement dans l'enseignement, comme l'a dit tout à l'heure Madame Kenda, primaire et secondaire, etc., mais aussi pour qu'il y ait des formations, n'est-ce pas, en dehors des circuits ordinaires des formations, à l'égard des femmes, à aller vers ces femmes, la femme rurale, lui faire prendre conscience, en fait, qu'elle est censée participer à la gouvernance de son pays, pas nécessairement au niveau national, mais il y a des institutions au niveau provincial. Il y a des assemblées provinciales, elles peuvent se faire élire comme conseil au niveau des communes, etc. Mais ces femmes-là n'ont pas l'information, ne sont pas à jour par rapport au combat qui est mené par les autres femmes quant à leur participation aux institutions et à la gouvernance de notre pays. Malheureusement, c'est ça. Et donc, l'État doit mettre les moyens pour accompagner les femmes. Sinon, on a un beau cadre normatif, mais l'effectivité tarde à venir parce que, effectivement, le ministère qui est en charge de piloter tout ça n'a pas les moyens de s'appuyer.
Prenons pour vous, Maître Guilhem Aléré, cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
David Kalenda, depuis la province du Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma. Je dois dire que la situation de la femme est précaire en général dans le territoire congolais, mais elle est encore plus grave pour les femmes du Kivu. Je peux vous affirmer par exemple que les femmes du Kivu sont battantes, mais elles vivent avec des hommes qui, de par leurs traditions et coutumes, ont appris à chosifier la femme. Dans l'arrière-province, beaucoup de gens vivent du champ. Vous verrez que dans ces différents territoires où nous avons été, ce sont les femmes qui cultivent le champ depuis la première pluie. vie jusqu'à la dernière. Mais c'est lorsqu'il s'agit de la récolte que les hommes se présentent avec leurs calculettes, parce qu'ils savent que bon, les produits des champs seront vendus, ça va rapporter de l'argent. Et ce sont les hommes qui viennent pour récolter, alors que ce sont les femmes qui ont fait tout le travail. Et puis il y a des concepts qui émergent dans les sociétés ici dans le Kivu. On dit que Masomo et Musika Imeshiaka Kumafiga. Donc, les études de la femme finissent dans la cuisine ou dans la casserole. Alors, il y a même des femmes et même des jeunes filles qui ont intériorisé ça. Elles voient que pour elles, les études, c'est quelque chose qui va en second plan. Moi, je pense que pour que nous puissions avancer de ce côté-là, il faudra que nous puissions impliquer les chefs traditionnels qui sont les détenteurs de la coutume ou des traditions. Leur faire comprendre que maintenir la femme dans cette position-là ne fait pas avancer notre société.
Maître Guilhem Aléré, la résolution 1325 serait-elle en duel avec certaines traditions?
Bon, ça dépend desquels, mais effectivement, on a toujours dénoncé de tout temps les pesanteurs culturelles, hein, n'est-ce pas, qui font que la cause de la femme n'avance pas dans notre pays. La femme souvent est butée à ça dans son milieu immédiat de vie. On a même des grandes combattantes, n'est-ce pas, des droits des femmes, qui une fois rentrées dans leur foyer, se soumettent à certaines pesanteurs culturelles, tellement celles-ci sont fortes. Donc c'est dire aussi que de la part des hommes, il y a un certain obstacle à l'évolution de la situation des femmes dans notre pays.
Madame Annie Kenda, les femmes qui sont militantes sont pour la plupart constituées par une certaine élite, mais les femmes rurales ne sont pas très impliquées, elles n'ont pas l'information, dit Maître Guilhem Aléré.
Oui, effectivement, comme Maître Guilhem, je suis parfaitement d'accord avec lui, comme il a fait même sa défense, j'ai senti que vraiment la manière dont il a présenté valent la peine. Les femmes rurales ont besoin de l'information. Et comme il venait de le dire, le ministère du Genre ainsi que d'autres partenaires qui sont impliqués dans la question se déploient des efforts pour mettre en place des cadres, comme il l'a dit, les cadres, les conseils locaux de promotion des droits de la femme. Ce sont des maisons de la femme. Ce sont des cadres qui permettent à ce que on puisse capitaliser l'information au niveau des milieux ruraux pour que les femmes puissent avoir l'information. Aujourd'hui, si vous allez par exemple dans la province de Maniema, dans la province de à Goma même, dans la province du Katanga, au Bas-Congo ici et par-ci, les ministères avec ses partenaires sont en train de fournir des efforts pour mettre les maisons de la femme à la disposition des femmes rurales comme cadre qui peut permettre à ce qu'il y ait une information permanente. Et nous sommes encore en train de faire un effort pour qu'il y ait des radios rurales
communautaires
pour que les femmes puissent accéder à l'information. C'est très très important. Pour le moment, comme il venait de le dire, nous pouvons dire que très peu de femmes rurales ont l'information qui concerne leurs droits. Mais il y a un défi à relever pour qu'elles soient beaucoup plus impliquées, pour qu'elles puissent savoir gérer leurs problèmes.
Alors, l'information, ça nous renvoie au défi de l'instruction également.
Mais bien sûr, ça nous renvoie au défi de l'éducation, de l'instruction. Comme nous venons de le dire, vous savez, dans notre pays, comme dans d'autres pays africains, la fille a des difficultés pour accéder à l'éducation au même titre que les garçons et d'une manière spontanée. Il y a des familles où quand il y a moins de moyens, ils préfèrent envoyer les garçons à la place des filles. C'est pour ça que nous voulons que au niveau du ministère de l'Éducation, il y a déjà un programme d'intégration du genre au niveau de l'école primaire et de l'école secondaire. Et nous voulons que cette information s'intensifie à travers notre pays et que les hommes aussi puissent avoir la bonne volonté d'accepter cette information et de vulgariser. Parce que quand les hommes vont s'impliquer, et les chefs coutumiers, comme venait de le dire notre ami de Goma, si les chefs coutumiers puissent aussi être sensibles aux gens, je pense que beaucoup de problèmes vont se résoudre.
Prenons pour vous, Madame Annie Kenda, cette réaction qui nous vient de Lubero, au Nord Kivu.
Je suis Kassere Kassidiri Chico, à partir de Lubero, en province du Nord Kivu. Pour comprendre cette situation, à mon avis, il faut d'abord s'inscrire dans la logique de la gouvernance congolaise en général. Je ne vois pas dans quel domaine le pouvoir politique de notre pays essaie de fournir un effort pour améliorer ou respecter les diverses recommandations lui adressées. Ainsi, les domaines comme celui de la représentation de la femme n'échappe malheureusement pas à cette façon de gouverner en RDC.
Réaction, Madame Anikenda.
Oui, la question de la représentativité, nous venons de le dire, elle est encore faible dans notre pays, comme l'a dit tous les autres qui ont pris la parole avant moi. Et la population féminine est constituée de 52% de la population congolaise, mais quand aujourd'hui, par rapport aux résultats que nous avons des élections et même dans les institutions qui sont en place, le nombre est encore très, très, très faible. Et notre préoccupation est que les femmes soient éduquées d'abord à la base, qu'il y ait une instruction et qu'il y ait des écoles, de bonnes écoles partout. Quand les femmes seront bien éduquées, les femmes vont comprendre et les femmes vont être élues en grand nombre. Parce que, comme vous-même vous l'avez dit, il y a une élite qui a déjà compris, qui est au niveau central, mais au niveau de la base, cette élite-là n'est pas encore perçue. Et c'est ça le grand défi. Il faudrait que les efforts commencent par la base et que ça monte au niveau le plus haut. Parce que la représentativité, nous ne devons pas le voir seulement sur le plan politique. Nous devons voir dans tous les domaines d'intervention de la femme.
Il y va de la responsabilité évidemment de l'État, mais avec quel budget?
Oui, c'est ça aussi le grand défi que nous sommes en train de vouloir épingler ici. Madame Georgette l'avait déjà dit par rapport au budget du ministère. Je ne sais déjà, on n'a pas un budget significatif par rapport quand on vote les budgets. C'est moins de 10% du budget national et il n'y a pas de budget d'investissement, il n'y a pas de budget de fonctionnement, il n'y a pas de budget c'est-à-dire des interventions économiques. Bien parce sûr. Que pour que les femmes puissent se retrouver, la majorité des femmes sont dans l'agriculture, sont dans la production. Il faut que le budget qu'on octroie au ministère du Genre puisse être à mesure de descendre jusqu'au niveau de la base.
Merci Madame Anikenda. Plus de 2500 personnes, dont 30% d'enfants, ont été violées entre janvier et juin de cette année dans la province du Nord Kivu. Ce rapport de l'ONG Il-Africa, qui était présenté à la presse au mois de septembre dernier à Kinshasa, ajoute que la croissance de ces cas de viol est due à l'insécurité qui prévaut dans cette partie du pays. Le directeur programme de cette ONG nationale, basée à Goma, se dit préoccupé par le nombre croissant des auteurs civils des violences sexuelles et de celui des enfants qui en sont victimes. Jean-Robert Likofata était au micro de Michel Kifindangoy.
La violence sexuelle maintenant est orientée vers les jeunes filles et les proportions que nous sommes en train d'observer à l'heure actuelle, c'est à 30% de tous les cas que nous avons enregistrés. Et ça, c'est dans la province du Nord Kivu. Mais quand nous voyons uniquement à l'hôpital Il-Africa à Goma, la tendance est encore plus grave. 70% des survivants des violences sexuelles sont des filles mineures. L'autre fait, c'est que les acteurs des viols sont de plus en plus devenus des civils. Ce que nous voyons aussi par rapport à l'augmentation, c'est un problème d'abus de pouvoir. Nous notons aussi un problème d'impunité. Ça, c'est par rapport à la justice. Et les ex-combattants qui ont été démobilisés, qui n'ont pas suivi un processus normal de réinsertion, sont devenus des acteurs des viols.
Professeur Georgette Biébié, l'impunité, abus de pouvoir, finalement, qu'est-ce qu'il faut déjà envisager comme solution pour que cette résolution ne puisse pas souffrir de non-application?
Oui, avant de répondre à cette question, je voulais d'abord dire que les structures pour la promotion de la femme existent effectivement. Nous avons le Conseil national de la femme. Nous avons des conseils provinciaux de la femme, mais malheureusement, ces structures sont à peine opérationnelles. Donc, je pense que ce n'est pas le fait de disposer de lois et de structures, des lois qui ne sont pas appliquées et des structures qui sont non opérationnelles, qu'on peut faire avancer la cause des droits des femmes. Par rapport à la question de l'impunité, je pense que je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous avons une loi qui a été promulguée en 2006 sur la loi sur les violences faites à toute personne d'ailleurs. On n'a pas dit que c'est c'était une loi de violence sexuelle faite aux femmes seulement. C'est une loi qui condamne toutes les violences sexuelles faites à toute personne. Malheureusement, cette loi n'est pas mise en application. On revient toujours à ce problème de nos mises en application, de lois que nous prenons nous-mêmes. Et l'impunité ne peut que demeurer dans notre pays. Et quand il n'y a pas de sanctions, je ne vois pas comment la situation peut changer dans notre pays. Donc c'est une question de prise de conscience, c'est une question de justice. Les gens qui sont victimes de violences sexuelles devraient être trouvés solution auprès de la justice, mais quand la justice ne fait pas correctement son travail, même les femmes qui sont victimes de violences n'osent plus porter plainte parce que elles portent plainte 2-3 jours après ou une semaine après ou un mois après. On voit encore le bourreau circuler librement dans la ville. Elles ont peur de s'exprimer. Alors que le travail que nous faisons, c'est de briser le silence. Qu'est-ce que ces femmes-là parlent, que ces femmes-là dénoncent. Mais quand il n'y a pas de sanctions, c'est vraiment difficile pour faire changer les choses dans ce domaine-là.
Professeur, il y a Gabriel Amunda Ladarou en province orientale qui dit « Cette résolution reste théorique, il y a 3 goulots d'étranglement, les femmes elles-mêmes, notre culture qui n'est pas très adaptée à l'émancipation de la femme. Ensuite, il se pose un problème de l'application des textes sur cette matière. L'application des textes, vous en avez parlé. Qu'est-ce que vous pensez de la culture qui n'est pas adaptée ainsi que des femmes elles-mêmes ?
Moi, je pense que si la culture n'est pas adaptée, et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voulons construire un état de droit. Même si la culture n'est pas adaptée, le pouvoir public doit veiller au respect des droits de tout un chacun. Je pense que c'est une question de justice, c'est une question de droit, et le droit ne doit pas être en dessous de la culture, surtout si cette culture pénalise une certaine catégorie de population. Donc, c'est pour moi, je suis convaincue que c'est la justice qui doit être faite, c'est la justice qui doit rétablir l'équilibre dans la société.
Alors, on a évoqué tout à l'heure un problème de budget, professeur Biébié, pas de budget conséquent, madame Anikenda l'a reconnu. Finalement, faut-il espérer en ce qui concerne la résolution 1325, parce que sans moyens, qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Nous, on est des militantes, hein, et quand on milite, on espère toujours. C'est un combat de longue haleine, c'est un processus, c'est pas un combat qui se gagne en un jour, hein. Nous avons vu aux États-Unis, Martin Luther King avait eu un rêve et ce rêve s'est réalisé 40 ans après avec l'arrivée d'Obama au pouvoir. Donc pour nous, c'est un processus, c'est un long processus. Nous allons continuer à nous battre pour que les droits des femmes dans ces pays soient respectés autant que les droits de l'homme.
Maître Guilain Maléré, il y a le point 11 de la résolution en ce qui concerne la justice qui dit tous les États ont l'obligation de mettre fin à l'impunité et de poursuivre en justice ceux qui sont accusés de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, y compris toutes les formes de violence sexiste et autres contre les femmes et les petites filles. À cet égard, fait valoir qu'il est nécessaire d'exclure si possible ces crimes du bénéfice des mesures d'amnistie.
Oui, la résolution a été très claire. En fait, elle recommande la plus grande fermeté au gouvernement, donc aux parties prenantes à cette résolution, vis-à-vis de tels crimes, dont malheureusement, il faut regretter que les femmes soient les plus nombreuses victimes en ce qui concerne, par exemple, les violences sexuelles. Eh bien, la résolution est claire, et c'est là, je pense, personnellement, une des grandes faiblesses de l'application de cette résolution dans notre pays, c'est en ce qui concerne l'impunité. Parce que comment voulez-vous que la femme de l'Est de la République du Congo participe à des réflexions sur des thématiques portant sur la participation des femmes aux instances de décision alors qu'elle est constamment brimée dans sa chair. Et donc, en ce moment-là, cette femme est de facto exclue de ce genre de débat. Alors, la résolution a anticipé sur cela. Elle s'est adressée aux parties en conflit, aux États notamment, pour demander qu'il n'y ait pas, il y ait une tolérance zéro, en fait, hein. On a entendu beaucoup ce slogan. slogan ici chez nous, une tolérance zéro vis-à-vis des auteurs de ce genre de crimes, et particulièrement envers la femme, parce qu'on a parlé des violences sexistes ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a constaté que souvent le gouvernement a balancé entre l'impératif d'une justice et celle d'une réconciliation entre les parties belligérantes, et au nom de cette nécessaire réconciliation et pacification de certaines parties de notre pays, l'État a sacrifié, ou le gouvernement a sacrifié, l'impératif de justice. Et malheureusement, les résultats sont là. Les femmes continuent à être brimées. Les anciens auteurs, n'est-ce pas, de ces infamies à l'égard de nos mères, de nos sœurs, et participent même, n'est-ce pas, à la gestion de la chose publique. Et ceci est un vrai frein, n'est-ce pas, un vrai recul par rapport à l'application de la résolution dans notre pays. Là, il y a une grosse faille et il est temps que le gouvernement se ressaisisse et redresse les choses par rapport à cette question de l'impunité des auteurs des graves crimes à l'égard, notamment des femmes et des jeunes filles.
Mettre fin à l'impunité, c'est l'une des solutions. Que faut-il encore pour que le gouvernement puisse améliorer sa mise en application de la résolution 1325, Maître Maléré?
Oui, j'en viens à mathématiques de tous les jours, c'est la réforme du secteur de la justice et des services de sécurité. On ne peut pas non plus, avec notre appareil judiciaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui, estimer aboutir à des résultats probants. Pourquoi? Parce que tant sur le plan des ressources humaines que des infrastructures, que des conditions de travail, etc., eh bien notre système judiciaire et des services de sécurité est en complet dysfonctionnement. Il est donc temps que le gouvernement mette les moyens et accélère la réforme, avec l'aide des partenaires au développement bien entendu, cette réforme qui est déjà en cours, pour qu'une fois qu'elle a abouti, qu'il y ait un essaimage, par exemple sur toute l'étendue de la République, des institutions judiciaires, tribunaux de paix, parquets, etc., et qu'il y ait la présence, n'est-ce pas, la restauration de l'autorité de l'État à travers sa justice, à travers une armée et des services de sécurité responsables, eh bien, en ce moment-là, les droits humains en général seront mieux protégés, et particulièrement les droits de la femme, qui sont violés systématiquement, et qui font que la femme, surtout dans les milieux ruraux, est asservi. Et donc, quand on est sous esclavage, on n'a pas le temps de réfléchir à des thématiques telles que la participation aux institutions, c'est clair, Alain.
Alors, en guise de conclusion, Maître Maléré, avec vous, ne faudrait-il pas envisager aussi des méthodes incitatives en matière d'instruction pour que la femme rurale se sente plus concernée?
Oui, là, nous recourons là à l'imagination des femmes qui militent justement pour la promotion des droits de la femme et de tous les hommes soucieux, n'est-ce pas, de voir les femmes accéder, n'est-ce pas, à ces droits-là, pour qu'on puisse imaginer effectivement des systèmes d'éducation. Mais je pense qu'il y a déjà des structures qui existent au niveau des villages, au niveau des localités, et il suffit de les impliquer, n'est-ce pas, de sorte à ce qu'elles mettent à leur agenda la question de la promotion des droits de la femme. Il y a des conseils de chefferie au niveau de ces secteurs et chefferies. Il y a des chefs de terre, des chefs de localité qui ont des conseils, etc. Nous pensons que tous ces gens-là, qui dépendent finalement du gouvernement du ministère de l'Intérieur, devraient être appelés à Kinshasa et avoir l'injonction de mettre dans le programme de leurs activités la question de la promotion des droits de la femme.
Madame Annie Kenda, il faut déjà conclure. On a compris que parmi les solutions, il faudrait doter le ministère du Genre, Famille et Enfants de beaucoup de moyens. En guise de conclusion, notamment.
Oui, je pense que c'est ça le grand défi. Mais il faudrait aussi que nous puissions savoir qu'il faut que le ministère est en train de renforcer les mécanismes qui sont en train d'être mis en place, parce qu'avec les activités que nous venons de réaliser de Open Day, on a pris comme proposition de renforcer des mécanismes de gestion, des mécanismes de fonctionnement pour que ce soit au niveau des provinces, au niveau national, que jusqu'au plus au niveau des territoires, que les mécanismes soient mis en place d'implication de tout un chacun, pour que chacun trouve quand même un endroit où il peut s'exprimer. Et quand il s'exprimera, je pense que l'information partira de la base jusqu'au niveau du sommet. Et nous pensons qu'il y aura des efforts qui seront louables et qui pourront permettre à ce que les droits des femmes soient effectivement appliqués dans notre pays.
Professeur Georgette Biébié, conclusion.
Pour moi, je voudrais tout simplement dire que c'est un long combat, un combat de longue lutte, de longue haleine. Nous allons continuer à nous battre pour que les droits des femmes soient respectés, nous allons continuer à revendiquer. Il y a la loi de la mise en œuvre de la parité qui est en examen au Sénat. Nous en appelons à des hommes de bonne volonté, des hommes qui sont genrés, qui
Merci.
Comprennent le souci des femmes
Merci.
D'être partout où on prend des décisions.
Merci. Merci, professeur. C'est par vous que nous terminons cette émission. Willem Lungamba et Bob Landou étaient à la technique. Guy Maté a assuré la réalisation, assisté de Samuel Kachak sous la supervision de Pélé Kipela. Présentation et coordination, Alain Roumouchinch. Merci de votre attention.